Et donc jusqu'à 20h, vous écoutez François Claus, c'est votre grand journal du soir.
Trop de zones d'ombre pour calmer l'émotion d'une ville et l'émotion d'un pays après la mort d'un adolescent, d'un grand garçon de 24 ans. Trop de zones d'ombre pour étouffer une opposition politique plus vindicative que jamais. Oui, ça ressemble bien à un feuilleton de l'été qui s'annonce, l'affaire Steve à Nantes. Nous allons vous éclairer dans un instant sur ce que dit réellement et ne dit pas encore le fameux rapport administratif de la police des polices avec Salomé Legrand. Nous verrons également comment le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur se sont retrouvés aujourd'hui en première ligne lors d'une visite soi-disant consacrée au cambriolage de l'été, mais tout le monde les attendait évidemment sur l'affaire. Et nous serons tout à l'heure à 18h30 en direct avec l'adjoint à la mairie de Nantes, insidieusement mise en cause hier, qui va répondre à nos questions précises sur ce qui s'est passé, vu de la mairie, lors de cette fameuse soirée du 21 juin dernier. Nous attendons évidemment tous vos témoignages, vos réactions au 39-21. Nous verrons également comment bien de drôles de cigarettes sont en train d'arriver de côté de la ville de Roanne. Bon, pour le moment, c'est très limité. Il y a 6 cas des cigarettes empoisonnées qui rappellent ces fameux verres d'alcool dans lesquels on glissait un produit à l'insu de votre plein gré et qui pouvaient créer quelques dommages. Nous allons faire le point sur cette affaire. Et puis, nous serons tout à l'heure en ligne, en direct, vers 18h10 avec le sociologue Jean Viard. On va essayer de décrypter les nouvelles tendances du tourisme français qui se dessinent alors que ce mois de juillet se termine. Comment est-ce qu'on décide de prendre ses vacances à l'heure de l'empreinte carbone et à l'heure des épisodes caniculaires? Vous voyez, il y a des changements qui se dessinent, ils peuvent être durables. Et puis ce fut un dieu, c'est devenu un démon, il est aujourd'hui à la tête d'un film, tête d'affiche, Maradona, personnage de roman, personnage de film qui devient un film. À 19h15, nous serons avec Grégory Schneider pour évoquer ce personnage hors du commun. Voilà pour le programme, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et nous vous attendons au 39-21, c'est votre grand journal du soir.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Et tout d'abord avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Salomé.
Bonsoir.
Alors il faut bien préciser que ce rapport qui pose tant de questions aujourd'hui, le fameux rapport de la police des polices, dont les conclusions ont été dévoilées par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur hier sur le perron de Matignon, ce rapport Salomé, c'est un rapport administratif.
Et un rapport qui n'a donc qu'un seul objectif, déterminer s'il y a eu une faute des services. Donc, la police des polices a visionné pour cela les vidéos amateurs et les images des caméras de surveillance, écouté les bandes radio de la police entre 1h et 5h du matin, lu les comptes rendus de fin de mission, mais aussi entendu les policiers impliqués, des vigiles et même des témoins, même si on n'a pas la liste exacte, car ce qui nous a été transmis, c'est le résumé de 10 pages envoyé par les enquêteurs à leur directrice et non pas les 235 pages que compte le rapport au total.
Et très clairement, Salomé, il y a des zones d'ombre.
Alors, il y a d'abord des faits qui sont établis. Le premier point, c'est que 4 puis une vingtaine de policiers se rendent sur place parce que l'une des 10 sonos installées sur cette partie du quai continue à diffuser de la musique après 4h du matin, heure convenue de fin de la fête. Face à un climat de tension, un commissaire leur donne l'ordre de s'équiper de protection. Ils sont alors l'objet de tirs de projectiles, de bouteilles en verre notamment et de pierres. Et l'IGPN estime qu'ils ne font que riposter. Entre 4h31 et 4h52 du matin, 33 grenades lacrymogènes, 10 grenades de désencerclement ont été lancées et 12 tirs de lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, ont été effectués. Pour autant, la police des polices estime qu'il n'y a pas eu de charge policière à proprement parler sur ce quai Wilson. Le rapport souligne quand même que dès 4h37, le commissaire en charge du dispositif à distance demande l'arrêt des tirs de lacrymo au vu du nuage de gaz qui se dirige vers la Loire. Par ailleurs, les enquêteurs pointent le fait que 8 à 14 personnes sont tombées à l'eau ce soir-là, dont 3 avant tout mouvement des policiers, qu'aucune de ces personnes n'affirme y avoir été poussée par l'action de la police et que les témoins ne parlent pas de gens en panique ou en train de courir. Du coup, pour la police des polices, l'action est, je cite, « justifiée et pas disproportionné.
Alors, restent les questions autour du cas de Steve lui-même, Salomé.
Et oui, et là, il y a plus de questions en suspens qu'il n'y a de faits établis. Seul point certain, son portable borne pour la dernière fois à 3h16, c'est-à-dire une heure avant le début de l'opération de police, même s'il a pu cesser d'émettre faute de batterie, par exemple. On ne sait pas à quelle heure précisément le jeune homme est tombé à l'eau, pas non plus dans quel état il se trouvait alors, s'il avait consommé de l'alcool ou des stupéfiants, par exemple. Le rapport mentionne aussi des témoins qui parlent directement de deux noyés. L'un est en fait retrouvé en ville le lendemain, mais rien n'est dit de l'autre cas. Pour autant, la conclusion de l'IGPN est, je cite, « qu'aucun élément ne permet d'établir un lien direct entre l'intervention des policiers et la disparition du jeune homme. Pas de lien direct établi ne veut pas dire pas de lien du tout, juste que rien ne le prouve pour l'instant ou que cela peut être un lien indirect. »
Alors bien sûr, question qui vient immédiatement à l'esprit, Salomé, est-ce que ces zones d'ombre vont trouver des réponses ?
Eh bien, c'est tout l'objet des enquêtes encore en cours. D'une part, celle de l'inspection générale de l'administration, demandée hier par Édouard Philippe, qui va aller un niveau au-dessus de la police en incluant les services de la mairie et ceux de la préfecture. C'est d'autant plus important que l'IGPN note en fin de rapport que la mairie n'avait embauché que 2 vigiles et que le barriérage sur zone n'allait pas jusqu'au bout du quai. Leurs conclusions sont attendues dans 1 mois. L'autre enquête est celle judiciaire, ouverte pour homicide involontaire. Elle prendra, elle, beaucoup plus de temps, des mois, pour chercher les liens de cause à effet et d'éventuelles responsabilités pénales.
Et l'un des hommes qui sera entendu au cours de l'enquête administrative que vous évoquez sera certainement le responsable de la sécurité de l'événement. Eh bien, il sera en direct avec nous tout à l'heure à 18h30. Beaucoup de réactions évidemment au 39-21 sur cette affaire, des réactions diverses et variées. On va en entendre plusieurs ce soir, mais je voudrais tout de suite prendre l'appel d'Abdel qui nous appelle de Waterloo dans le Nord. Bonsoir Abdel.
Oui, bonsoir. Merci de m'avoir appelé.
Nous attendons votre réaction. Qu'est-ce que vous en pensez après avoir écouté ce que Salomé Legrand nous disait sur le cadre pour le moment de ce rapport de l'IGPN ?
Écoutez, moi avant tout cela, je voulais préciser que je ne suis pas anti-policier, anti-flic. Je reconnais et respecte profondément ce métier de sacrifice. Mais et aussi à la famille de Steve, mes sincères condoléances et du respect, voilà. Ensuite, sur les événements, effectivement, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir que il y avait des jeunes qui étaient en train de fêter la nuit de la musique, hein, et puis une charge de police, c'est ce que je retiens, une charge de police, et des jeunes tombent à l'eau. Donc déjà, est-ce que c'est normal qu'on charge des jeunes, qu'on les gaze,
Abdel, vous avez entendu, Salomé, il y a encore une zone d'incertitude très importante entre l'effet de la charge de police et les gens qui sont tombés dans la Loire. Le lien n'est pas effectué, encore moins en ce qui concerne le cas de Steve. Pour le moment, il faut rester, j'allais dire, factuellement précis. Mais il y a ce fait qu'il y a eu une charge de police au petit matin à Nantes.
Mais il y a un élément qui discrédite tout ça, qui fait qu'il y a un manque de confiance, c'est que c'est la police qui enquête sur la police. Pourquoi pas des juges indépendants ? Parce que moi, je n'ai aucune confiance en l'IGPN. Aucune.
La réponse...
J'en ai une expérience personnelle. Mon expérience personnelle.
Qui vous fait réagir de cette manière-là, oui. Abdel, la réponse, elle est là. Vous avez une enquête d'un côté de l'inspection de l'administration et de l'autre, vous avez la justice. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Évidemment, mais la justice, ça va prendre du temps. Et on a compris que le temps politique temps médiatique n'était pas celui de la justice.
Mais auparavant, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'éléments factuels qui relèvent que nous avons une police de répression au service d'un pouvoir qui se protège, et ça, c'est bien réel. Donc, on envoie des successions de violences.
Là, vous faites un amalgame, Abdel, entre tous les faits qui se sont passés durant le mouvement. Non, mais vous avez le droit, évidemment, de le ressentir et de le penser comme cela, des événements qui n'ont pas forcément des liens entre eux. On pense aux violences pendant les manifestations de Gilets jaunes, aux blessés qu'il y a eu, à l'utilisation des balles qui ont été pointées. Et cette affaire Steve, bien évidemment, s'inscrit dans ce contexte. Merci, Abdel, de nous avoir donné votre point de vue. Et restez, bien sûr, à l'écoute de votre grand journal.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus.
Et avec Virginie Salmen, on va s'interroger sur ces drôles de cigarettes qui sont, semble-t-il, apparues dans la ville de Roanne. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Pour le moment, 6 victimes recensées par les policiers et qui nous donnent le scénario qui rappelle ce qui pouvait se passer dans certains bars ou certaines boîtes. On vous offre une cigarette, cette cigarette contiendrait des produits toxiques. Et la personne qui vous l'offre, vous dépouille plus facilement après. On est dans ce cas de figure.
C'est exactement ça, Des jeunes qui offrent des cigarettes à d'autres jeunes entre 15 et 20 ans dans un square en plein centre-ville de Roanne. Sauf qu'après quelques bouffées, les victimes ont des réactions très fortes. Alors, des bouffées de démence, des troubles de la perception. Au moins un jeune a perdu connaissance dans le square. Il a été évacué par le secours et hospitalisé. Et pendant leur malaise, effectivement, les délinquants en ont profité pour les dépouiller au moins de leur téléphone. Alors, ces cigarettes, elles avaient l'air tout à fait fait normale d'apparence. Il y avait des cigarettes industrielles et des cigarettes roulées, mais elles contenaient en fait une substance très puissante. On ne sait pas encore précisément de quoi il s'agit, si c'est un produit de synthèse ou un dérivé du cannabis qui a pu être vaporisé sur la cigarette. Elles sont en cours d'analyse au laboratoire. Les résultats doivent être connus d'ici 2 jours. En attendant, les policiers appellent à la plus grande vigilance, et pas seulement à Rouen, et à ne pas accepter une cigarette proposée par un inconnu.
Merci Virginie Salmen.
Europe 1. Les pilotes d'Air France KLM actent le développement de Transavia, la compagnie low cost du groupe. Et bien, on va en parler dans un instant avec Olivier Samin du service économie d'Europe 1. 18h12, vous écoutez François Claus jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Mais que se passe-t-il donc à Air France? Vous vous souvenez peut-être, il y a 5 ans, c'était un mouvement de grève qui avait paralysé la compagnie pendant presque 2 semaines, des pilotes remontés comme des pendules. Hors de question d'aller vers le low cost. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, beaucoup d'avions ont circulé dans le ciel. Et voilà que le principal syndicat de pilotes aujourd'hui nous annonce « Oui, oui, nous voulons du low cost, il faut sauver Transavia ». Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir François.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Il s'en est passé des choses en 5 ans. Le CNPL est de manière très large. Principal syndicat de pilotes, valide aujourd'hui le projet de développement de Transavia, la filiale low-cost d'Air France.
Oui, la participation est très élevée et le oui a été donné à 78%. Autrement dit, le résultat est sans appel. Les pilotes du SNPL d'Air France approuvent très largement le texte qui a été négocié avec la direction pour assurer le développement de Transavia. On est loin, très loin de cette fameuse épreuve de force dont vous parliez, qui avait cloué au sol les avions de la compagnie pendant 14 jours en 2014. À l'époque, les pilotes avaient pesé de tout leur poids pour brider cette jeune compagnie low cost qu'Air France avait lancée afin de contrer l'offensive des Ryanair et autres EasyJet. La direction avait dû se résoudre à plafonner à 40 avions seulement la flotte de Transavia. Elle avait dû également accepter que les pilotes de Transavia et ceux d'Air France aient le même contrat de travail. Dans l'accord qui est conclu aujourd'hui, le plafond des 40 avions disparaît. Autrement dit, Transavia pourra avoir beaucoup plus d'avions que 40 avions seulement. Quant aux contrats de travail, eh bien, ils seront différenciés, mais les écarts de rémunération seront infimes.
Alors, expliquez-nous, Olivier, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans pour que le ciel s'éclaircisse ainsi pour Transavia?
Eh bien, les responsables du SNPL d'Air France le reconnaissent. L'arrivée du Canadien Ben Smith à la tête d'Air France a changé la donne, avec une pratique du dialogue social plus ouverte. Ce qui a changé aussi, c'est le contexte. Une concurrence de plus en plus rude des compagnies low cost et la nécessité pour Air France de réagir, nécessité acceptée par les pilotes, sachant que Transavia est une compagnie qui marche bien à partir d'Orly et de ses bases françaises et qu'elle apparaît clairement comme un vecteur de croissance pour le groupe Air France KLM.
Et on notera que le même jour, justement, le roi du low cost, Ryanair, annonce de son côté la suppression de près de 900 emplois. Ryanair, malgré une hausse de son trafic, plus 11% cette année, est en très grosse difficulté du fait notamment du devoir de rémunérer à leur juste valeur le travail des pilotes et des personnels navigants.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité à présent, François, le sociologue Jean Viard. Son dernier livre, Chronique française de Mitterrand à Macron, est paru aux éditions de l'Aube.
Oui, bonsoir Jean Viard.
Bonsoir.
Heureux de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1, vous qui scrutez la société française, ses mouvements, son évolution. Jean Viard, on a noté au mois de juillet une baisse touristique assez forte dans le sud, une remontée du tourisme sur la côte atlantique. Est-ce qu'il y aurait déjà, selon vous, un effet canicule et un effet, on allait dire, éco-citoyen sur la manière dont on décide de vivre ses vacances?
Un effet éco-citoyen, j'irai pas jusque-là, même si c'est sans doute une préoccupation de beaucoup de gens, mais plutôt une préoccupation. Par contre, l'effet canicule, je crois qu'il est très net. Et si vous voulez, on décide de plus en plus tardivement quand on part en vacances. Comme on a tous la météo une semaine à l'avance sur nos téléphones, évidemment, on déplace nos destinations en fonction de la pluie. Alors, il y a des années, on dit plan Bretagne, alors on n'y va pas. Il y a des années, on dit non, la Bretagne, il fait 22, 23 degrés, la mer est à 20, c'est fantastique. Donc, si vous voulez, je dirais que les gens, ils apprennent à vivre avec un climat qui change. Et au fond, c'est pas une mauvaise nouvelle, ils s'adaptent.
Alors, on s'adapte au climat, mais vous ne notez pas encore, j'allais dire, des vacances responsables, entre guillemets. C'est-à-dire se dire, allez, moi j'arrête de prendre l'avion, j'aurai un bilan carbone
mais
trop négatif.
Les vacances d'été, je dirais d'abord, ce qui est le plus net, c'est qu'il n'y a rien qui change. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 45% des Français qui vont partir cet été pour aller à la mer, en famille, pendant 10 ou 15 jours. C'est ça, les vacances d'été. Et pour l'essentiel, en voiture, parce que c'est ce qu'il y a de plus commode quand on a les enfants, les bagages, le chien et la tente. Donc, si vous voulez, le moteur, il est là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des évolutions, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles à l'écologie, mais le cœur du produit, il est là. Après, je pense que les préoccupations, les débats sur l'aviation, tout ça, existent, et si vous voulez, on y est sensible. Mais il y a peu de gens qui vont aller aux États-Unis en bateau, comme la jeune fille qui manifeste pour l'écologie et qui est très dynamique. Elle est allée en bateau à voile aux États-Unis. La plupart des gens qui vont à New York vont quand même continuer à aller en avion. Donc, si vous voulez, ne croyons pas qu'on a complètement modifié nos pratiques, mais on peut être attentif. Je suis sûr que sur, par exemple, les objets en plastique sur les plages, les verres qui se jettent, etc., sur des choses comme ça, où on offre des solutions aux gens, on leur propose autre chose, ils sont très contents. Le problème, si vous voulez, dans tout ça, c'est qu'on n'a pas envie de changer radicalement nos modes de vie. Les grandes vacances d'été, c'est un moment fantastique de la vie. Il y a à peu près la moitié des gens qui vont partir cet été. Et moi, je dis, il y a toujours eu les grandes processions. Hein, le ramadan, le carnaval et tout. Nous, notre grande procession d'été, c'est l'été avec Bison Futé, qui est notre régulateur de tension. Là, on sait que demain, ça va être noir. Alors
ah oui,
les
annonces du noir soulagent même ce week-end, tellement ça va
absolument
être noir.
Absolument. Donc, c'est quasiment comme si c'était un prophète qui parlait. Puis, en plus, je prends l'idée de bison, quoi, qui est quand même extraordinaire. L'animal américain très puissant, qui est en troupeau. On a tous vu ça dans les films. Enfin, bon. Donc, si voilà. Donc, il y a un grand rituel collectif. Et ça va pas fondamentalement changer. Parce qu'au fond, c'est la grande fête de la de la rencontre, de l'amour, du moment où on s'occupe de ses enfants, de son corps aussi beaucoup. Donc ça ne va pas changer, c'est un moment essentiel de notre culture.
Restez bien avec nous, Jean-Viard, parce que c'est un thème qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Et au 39-21, nous avons Magali qui nous a appelé notamment. Bonsoir Magali.
Bonsoir.
Alors vous nous dites, ben moi en vacances j'ai envie de changer.
Alors, en fait, moi, on ne fait pas des vacances, je dirais, 100% écolo en allant dans un gîte enfoui au fin fond de la nature. En revanche, on réitère toutes les habitudes qu'on a tout au long de l'année. C'est-à-dire que on n'est pas dans un mode où on se dit que comme c'est les vacances, ben c'est relâche et puis ça compte pas. C'est-à-dire
que vous voulez dire, c'est pas parce que c'est les vacances que on oublie la planète non plus.
Exactement, tout à fait. Et parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est malgré tout anxiogène et on pourrait se dire, allez, pendant 15 jours, j'y pense pas. Mais en fait, non, nous, ça fait partie de nos habitudes de vie. Donc, quel que soit l'endroit où on part, on continue à limiter les sacs plastiques. Donc, les courses, c'est soit avec un panier, soit avec un tote bag. On insiste pour ne pas avoir de sacs parce qu'on nous en propose systématiquement. Pas de paille, c'est-à-dire que quand on va boire un verre plus facilement, on demande à ne pas avoir de paille parce qu'on nous en donne aussi systématiquement. Si on va pique-niquer, ou même toute la journée quand on est en vadrouille, c'est avec une gourde. Alors surtout, pas de bouteille plastique, ça c'est rédhibitoire. Si on se balade et qu'on voit un papier, une canette, hein, quelque chose qui traîne, que ce soit moi ou les enfants, ben, on a pris l'habitude de le ramasser. C'est vrai que c'est énervant de ramasser ce que les autres ont fait tomber. Mais je me dis que si quelqu'un voit le faire...
Ce sont des gestes et des attitudes que vous n'aviez peut-être pas forcément il y a quelques années, Magali. Ça veut dire, Jean-Pierre, qu'on voit apparaître quand même une forme de prise de conscience qui va peut-être pousser
mais
le monde à évoluer.
Je suis convaincu. Hein. Je veux dire, il y a une prise de conscience. Les gens trient leurs déchets en vacances comme dans l'année. Regardez comme le tri des déchets s'est développé. Regardez comme le marché de l'automobile a changé. Il faut du temps, parce qu'on ne change pas de voiture tous les 15 jours, mais si vous voulez, le nombre de diesel a reculé, etc. Quand on offre des solutions simples, je pense que la prise de conscience écologique, elle est faite. Il a fallu 30 ans, 40 ans, il y a eu des précurseurs, il y a eu des lanceurs d'alerte, tout ça. Aujourd'hui, on a compris ça. Le problème, c'est comment à chaque endroit, on donne aux gens la possibilité concrète de faire ce que dit cette dame est très intéressant parce qu'effectivement, il y a aussi tous ces petits détails, mais les petits détails multipliés par, en France, il doit y avoir à peu près 90 millions de touristes. 220 millions de voyages des Français en France, c'est des masses énormes. Donc effectivement, tous ces petits gestes comptent, et je crois que ça c'est tout à fait exact, et que ça va se retrouver partout. Mais si vous voulez, il y a deux choses différentes. Il y a les vacances, c'est un grand rituel, et puis la pression, la compréhension du réchauffement climatique, ou plutôt du changement climatique, et la compréhension de l'épuisement des ressources, je pense qu'elle est très très puissante dans la société. Les gens ont toujours d'ailleurs le sentiment que c'est les politiques qui en font pas assez. Après, très concrètement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce Donc qu'on fait, on a bien vu, on va pas revenir sur les gilets jaunes et sur les taxes, mais si vous voulez, les gens, culture, je crois que la culture a intégré l'idée du risque climatique, et il faut partout faire des offres pour que les gens puissent agir.
Merci beaucoup Jean Viard de nous avoir éclairé, je renvoie à Chronique française de Mitterrand à Macron aux éditions de l'Aube, merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, et notamment à Magali qui a pu exprimer son point de vue et ses nouveaux comportements en vacances.
18h-20h, François Claus sur Europe 1.
Et à 18h, passé de 21 minutes, le rappel des grands titres de l'actualité du jour avec Marion Georges. Bonsoir Marion.
Bonsoir François. Ce samedi de chassé-croisée entre les juilletistes et les haoussiens sera la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes routiers français. Prévision de bison futé qui a classé la journée noire dans le sens des départs. Dans le Gard, 350 pompiers sont toujours en train de lutter contre la reprise du feu à Générac, au sud de Nîmes. Un incendie a brûlé plus de 500 hectares. Hier soir, 190 personnes ont été évacuées. La France et quatre autres pays européens s'engagent à accueillir les 116 migrants du Gregoretti. Un accord a été trouvé. Cela faisait plusieurs jours qu'ils étaient coincés au large de l'Italie. Et puis Julien Alaphilippe de retour 6 jours après le Tour de France. Il sera au départ de la Clásica San Sebastián. En Espagne, il défendra donc son titre puisqu'il avait remporté la dernière édition.
Il nous manquait déjà notre Julien national. Merci Marion Jort.
Édouard Philippe et Christophe Castaner étaient en déplacement dans l'Essonne à Palaiseau, François.
Et on va retrouver Aurélie Herbemont qui était avec tout nous raconter.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir, François Claus.
Avec des réactions très très dures sur le... dans le monde politique sur l'affaire Steve. Je vous en cite deux pour le moment. Celle de la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, qui dénonce l'acharnement du gouvernement contre l'ensemble de la jeunesse. Et puis, sur sa page Facebook, Jean-Luc Mélenchon qui estime que de toute façon, dans le régime macronien, il n'y aura pas de justice rendue sur le cas de Steve. Le contexte politique est évidemment très tendu pour l'exécutif et c'est pour ça qu'on voulait ce soir être avec vous, Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir François.
Vous avez suivi aujourd'hui le déplacement qui était prévu à l'agenda déjà hier du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. C'était à Palaiseau, en région parisienne. Il devait évoquer pour rassurer les Français les dispositifs de sécurité pour éviter des cambriolages pour le mois d'août. Aurélie, très clairement, l'affaire Steve les a rattrapés.
Ah oui, c'est clair que la lutte anti-cambriolage a été reléguée au second plan. Édouard Philippe, il faut dire, il s'était emparé du sujet Steve dès hier. Vous vous souvenez de ces images dans la cour de Matignon? Eh bien, Édouard Philippe, il en a reparlé aujourd'hui. Et je peux vous dire, pour suivre régulièrement les déplacements du Premier ministre, c'est assez exceptionnel qu'il consente à reparler d'un sujet qui ne colle pas avec la thématique de son déplacement. En l'occurrence, c'était les cambriolages. Un conseiller ministériel le dit. C'est la mise sous tutelle de Castaner, quand Matignon assure qu'il s'agit de montrer que l'engagement de transparence est pris au plus haut sommet de l'État. Édouard Philippe a d'ailleurs profité de sa visite à Palaiseau pour assurer que malgré les attaques de l'opposition, certains réclament sa démission, Christophe Castaner n'est pas fragilisé et a le soutien du Premier ministre.
Le ministre de l'Intérieur n'est pas fragilisé, il a par définition le soutien du Premier ministre. J'ai pleinement confiance en lui. Nous sommes mobilisés à la tâche pour n'accuser personne et ne dédouaner personne. Ce que nous souhaitons, c'est que la transparence soit faite, que les faits soient établis et que les responsabilités soient tirées.
Un engagement à faire la transparence réitéré par le Premier ministre en personne. Il admet que des zones d'ombre persistent après l'enquête de l'IGPN, la police des polices, et renvoie désormais à l'enquête judiciaire qui prendra du temps forcément et aussi à l'enquête de l'inspection générale de l'administration qu'il a saisie hier et qui devrait rendre ses conclusions dans un mois.
Il faudra donc tenir au moins un mois et encore merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. On va Marlène, allez faire un petit détour par l'Alsace, nous irons tout à l'heure au festival de Colmar. Ce sera à 19h30, formidable festival qui mélange les vins avec modération et la musique sans aucune modération. Écoutez ce qui se passe un peu en Alsace. Ce n'est pas un vin de messe, mais c'est un vin pour la messe, on pourrait dire, quand des vignerons lancent une cuvée spéciale en Alsace pour sauver le clocher d'une église qui a besoin d'être restaurée, des vignerons qui vont proposer leur propre cépage, une bouteille vendue, 1 € reversé au chantier de l'église. Ça se passe à Göbersfeld et c'est Charlotte Bechler qui nous le raconte.
La bouteille est reconnaissable, quelle que soit sa cave d'origine. Sur l'étiquette, on trouve un dessin de ce fameux clocher à restaurer. Chez Guillaume, on est vigneron de père en fils. Pour lui, il était évident de participer à ce projet.
Le clocher du village fait partie intégrante du patrimoine historique, tout comme le vignoble, patrimoine qu'il faut protéger, entretenir et surtout pérenniser. Le vignoble de Göbersfeld est réputé depuis des centaines d'années et le clocher qui veille sur le vignoble depuis de nombreuses générations.
Guillaume a préparé 300 bouteilles d'une cuvée classique, un Gewürztraminer doux et fruité. Pour Patrick, un autre viticulteur du village, le choix n'est pas encore arrêté.
Je partirais plutôt sur un assemblage pour vraiment faire une cuvée unique, assemblée ensemble. Du Gewürz avec du Pinot Gris ou du Muscat, du Riesling. Vraiment partir sur une cuvée, inventer quelque chose, vraiment la cuvée.
Avec ses cuvées Saint-Pantaléon, le maire Roland Husser a trouvé la solution. Son dossier n'avait pas été retenu par le loto du patrimoine.
C'est la seule activité économique que j'ai dans le village. Voilà, donc on a 250 hectares de vignes. Ça paraissait logique, mais pas évident, parce que, comme dit, ils sont concurrents. Et d'avoir fait abstraction de ça, voilà, moi je trouvais ça formidable.
Les 14 vignerons solidaires mettent en vente entre 200 et 500 bouteilles chacun. Plus de 5 000 € seront donc reversés pour le chantier de l'église. Guébert-Juir, Charlotte Bechler, Europe 1.
Et nous repartirons en Alsace tout à l'heure au festival de Colmar. Mais en attendant, on va faire un détour par le sud. On passe du pays du vin au pays de la truffe, le pays de la truffe dans le sud-est, qui devient le pays du piano au mois d'août. Et oui, nous prenons la direction, Marlène, de ce très beau village de la Roque d'Anteron dans l'arrière-pays aixois pour un festival exceptionnel, le festival du piano. Et vous avez la chance, Thierry Geffrotin, d'être là-bas, on entend les cigales derrière vous.
Oui, immense chance François, vous connaissez bien la région en plus, hein, parce que c'est unique au monde ce qui se passe ici et pour bien des raisons. D'abord le lieu, hein, en plein air, dans un parc, les 2000 spectateurs installés à deux pas d'une allée ombragée bordée de 365 platanes et de séquoias. Vous imaginez la quiétude du lieu quand les cigales cessent leur chant entêtant, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Et dans ce parc du château, on les entend bien, hein,
ouais, ouais.
Et dans ce parc du château de Florent vont être donnés cette année 38 concerts de piano en un mois, soit plus d'un tiers des concerts proposés dans le cadre de ce 39e Festival International de la Roque d'Anteron. Au total, il y a 14 lieux. Hein. Unique aussi ce festival parce que la Roque d'Anteron, c'est vraiment la capitale mondiale du piano. Tous les grands noms y passent ou y sont passés, plus les jeunes pousses, les jeunes, les futurs grands de demain. Unique aussi par la programmation. Et René Martin, le créateur de ce festival, y tient, il veut qu'à la Roque, tout le monde y trouve son compte.
Il y a des experts qui connaissent quasiment tous les grands interprètes dans le monde et qui s'y retrouvent ici. Ils viennent écouter Sokolov, Arkady Volodos, Boris Berezovsky. Il y a aussi des amateurs éclairés qui viennent écouter des répertoires un peu nouveaux. Et puis il y a aussi, la majeure partie, c'est un public de curieux qui vient pour vivre un moment d'exception. Et surtout, ils me font une très grande confiance parce qu'ils viennent écouter beaucoup, beaucoup de jeunes pianistes qui vont devenir plus tard des références.
Et je vous confirme, Marlène, ce sont des moments d'exception qu'on vit là-bas. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs années. Merci Thierry Geffrotin de nous avoir fait
rêver.
Oui,
c'est un plaisir de partager avec vous ce moment assez magique, je dois le dire.
Bonne soirée à la Roque d'Anteron, Thierry. Merci de nous avoir fait partager les émotions.
Et d'ailleurs, à suivre la météo, vos prévisions météo pour demain.
Alors, Laurent Cabrol, vous nous l'aviez annoncé hier. Ben oui, ça change en ce moment.
Ben oui, la situation a changé. Je vous en parlais hier à la même heure. À savoir que nous sommes passés d'un système nord-sud à un système d'ouest. Les vents maintenant viennent de l'ouest, viennent de l'océan, viennent de l'Atlantique et ils sont particulièrement rafraîchissants. C'est la raison pour laquelle on aura beaucoup moins chaud d'ailleurs. Et puis on va se régaler quand même, hein, puisque le soleil est dans à cette époque de l'année. Il fera bon sur l'ensemble des régions de France. Alors une particularité quand même pour aujourd'hui, cette particularité vient du sud-ouest où là nous allons écopés, nous allons hériter d'une perturbation espagnole. On se demande ce qu'elle vient faire là. Une perturbation orageuse. Je dis ce qu'elle vient faire là parce qu'elle est un peu anachronique par rapport à ce que je vous disais. Ben oui, elle va rester une journée, simplement. Donc elle va arriver par le sud-ouest et elle restera là. Elle va glisser le long des Pyrénées dans le courant de la journée. Ce sont des orages sans grandes conséquences, nous l'espérons, et qui vont affecter uniquement les régions du sud. Quant aux régions du nord, toutes les autres régions, ce sera un temps globalement ensoleillé. Les températures pour cette journée de jeudi 1er jeudi 1er août, 21 à Barfleur, 24 à Bordeaux, 25 à Lille, 27 à Rennes, 28 à Paris, 29 à Dijon et Lyon, 31 à Marseille et 33 à Carpentras.
C'est dingue, des températures estivales en plein été.
Europe 1, 18h32.
Avec vous, Marion Jorte, le rappel des grands titres de l'actualité de ce dernier jour du mois de juillet.
Édouard Philippe renouvelle sa confiance au ministre de l'Intérieur. Il l'a déclaré ce matin pendant une sortie officielle. Le gouvernement est mis en cause dans sa gestion de l'affaire Steve. Hier, le rapport de l'IGPN a conclu qu'on ne pouvait pas établir de lien entre l'intervention de la police et le décès du jeune homme. Christophe Castaner, qui s'engage de son côté, que le rapport de l'inspection générale de l'administration soit rendu public. Le ministre de l'Intérieur, qui est actuellement aux côtés de 350 pompiers à Générac, dans le Gard, il redoute une reprise du feu. 500 hectares de végétation ont été brûlés. Et puis le président brésilien a posé un lapin à Jean-Yves Le Drian. Ils devaient se rencontrer aujourd'hui, mais le rendez-vous a été annulé officiellement pour raison d'agenda. Mais en réalité, Jair Bolsonaro était chez le coiffeur. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier des écologistes et cela n'aurait pas plu au président brésilien.
Merci Marion Jorte.
18h-20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Et avec votre invité François.
Bonsoir Monsieur Nicolas.
Bonsoir.
Gilles Nicolas, vous êtes adjoint au maire de Nantes. Vous avez notamment la délégation de la sécurité et de la tranquillité publique. Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu le Premier ministre hier, les autorités françaises qui engageaient une nouvelle enquête administrative? Vous vous apprêtez à être entendu donc par ces nouveaux inspecteurs?
Oui, s'il le souhaite, il n'y a pas de problème. Madame le maire, Johanna Roland, a dit qu'elle souhaitait toute la transparence. Moi également, je suis sur tout à fait sur la même ligne. Je ne suis pas pour qu'on procède, j'ai envie de dire, par approximation, voire insinuation.
C'est ce que vous avez ressenti dans les propos du Premier ministre, une forme d'insinuation de renvoyer la responsabilité sur la mairie de Nantes, entre autres?
D'approximation, je dirais plutôt. Mais d'ailleurs, le Premier ministre s'interroge lui-même. S'il demande des enquêtes complémentaires, c'est qu'il trouve qu'apparemment, il y a des faits quelque peu contradictoires, troublants. Donc, si c'est pour aller pour plus de transparence, tant mieux. Si c'est pour dire que d'autres personnes sont en cause, on peut se poser des questions. Parce que, je veux dire, il faut être précis. J'ai trouvé qu'on n'était pas assez précis. Parce que si on veut parler du rôle de la municipalité, eh bien, soyons précis. La municipalité, elle a organisé la fête de la musique dans le centre-ville de Nantes. Elle a pris un arrêté concernant le stationnement, la non-circulation. Elle a pris des mesures contre l'intrusion, etc., par rapport au plan Vigipirate. Mais continuons à être précis. Pour les sound systems, ceux qui s'installent historiquement sur le quai de Loire, la mairie, la ville, ne délivre aucune autorisation, car cela relève de la police spéciale du préfet, relative à l'organisation de free party. Je vous renvoie aux articles 211 et compagnie du Code de la sécurité intérieure.
Et donc au ministère de l'Intérieur.
Mais bien que juridiquement non compétente en matière de free party, la ville reconduit chaque année un dispositif de prévention, c'était notamment un canot de la société nautique Atlantique, et de deux agents de sécurité qui font le lien avec un poste de secours situé au hangar à Banane. C'est un site qui est juste à côté du quai Wilson, et c'est un site particulièrement sécurisé parce qu'il appartient à la ville de Nantes. Ce site, il y a un garde-corps, il y a des échelles de secours qui ont un éclairage automatique, il y a des bouées de sauvetage, ce site est vidéoprotégé, ce site comporte un cheminement piétonnier qui retourne sur le centre-ville. Donc, quand c'est notre territoire, quand c'est notre responsabilité, nous prenons toutes les mesures de prévention et de protection des personnes. Sur le quai Wilson, c'est un terrain qui appartient au port autonome, donc à l'État. Donc il faut être précis, faut être précis.
Ce qui veut dire, monsieur Nicolas, que s'il n'y avait pas, comme on l'a signalé ici et là, des mains courantes ou une protection par rapport au fleuve tout proche, c'était à l'État de dire il faut mettre ici des protections.
Moi, je ne dis pas c'était à l'État, c'était pas à l'État, etc. Je dis, moi, voilà ce que la municipalité fait quand elle est compétente sur son territoire. Quand elle n'en a pas la compétence, ce n'est pas à elle de faire. Puis j'ai envie de vous dire, monsieur, c'est qu'à 4h30, ce n'était pas la ville qui était présente sur les lieux, ce n'est pas la ville qui a donné des ordres. Donc je trouve qu'un petit peu, ce changement de responsabilité m'étonne.
Oui, et on le sent dans vos propos, vous êtes extrêmement précis. C'était, rappelons-le, le 21 juin, hein, le soir de la
oui,
fête,
mais,
de la musique, dans
la
nuit du 21 au 22. Le 22 au petit matin.
Voilà, l'intervention, c'est à 14h30 du matin.
Jean-Nicolas, vous évoquez un rassemblement historiquement habituel du côté de Nantes. Il y avait une grande pratique des fêtes. Donc, dans ce lieu, qu'est-ce qui a fait que cette année, selon vous, ben, ça n'a pas fonctionné de manière aussi fluide que les autres années?
Ben, c'est justement les questions à se poser.
Et vous n'avez pas de réponse?
Ah, mais je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas l'IGPN. Hein.
Vous avez une idée?
Ah, j'ai pas, c'est pas moi, je veux dire. Il y a plusieurs enquêtes en ce moment qui sont en cours. Donc je pense que ceux qui travailleront d'une manière impartiale verront les choses.
Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion plus générale dans votre ville, monsieur Nicolas? Il y a une énorme émotion, on l'a vu, avec des rassemblements spontanés. Le cas de Steve génère une émotion même dans tout le pays. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, vous, en tant qu'élu nantais?
Je partage cette émotion, je veux dire, et cette vague d'empathie, hein, parce que un jeune de 24 ans décédé dans ces conditions-là, je veux dire, c'est quand même assez dramatique.
Et c'est pour ça qu'il faut, selon vous, apporter des réponses plus précises et plus rapidement.
Et c'est pour ça qu'on a demandé que la lumière soit faite sur tous les événements qui se sont déroulés durant cette nuit.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Gilles-Nicolas, d'avoir accepté de répondre ce soir en direct aux questions qu'on se pose ici à Europe 1 et que, évidemment, beaucoup d'auditeurs se posent également. Je rappelle que vous êtes adjoint à la mairie de Nantes, chargé des questions de sécurité et de tranquillité publique. Merci encore.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Europe 1. Et dans un instant, François, c'est la rétro d'actu. On va revenir sur l'un des événements qui a marqué l'année.
Ah oui, et de quelle manière? 1er décembre, l'Arc de Triomphe et les Gilets jaunes.
Europe 1. Dans la foule des gilets jaunes, il y a Thierry, un ouvrier. Il appelle les gens à manifester. Il parle d'une petite révolution.
He's not going to do testing of rockets and nuclear.
Oh, le but de Manchester United.
Europe 1. Rétro d'actu.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
François Claus.
L'heure du coup d'œil dans le rétro de l'actualité. Comme tous les soirs à cette heure-là sur Europe 1, nous vous proposons de revenir sur l'un des événements qui a marqué l'année, cette saison radiophonique, de revivre ce que vous avez pu entendre ou que vous n'avez pas entendu, et surtout de s'interroger sur « mais où en est-on ?» Question que les auditeurs nous posent très souvent et nous reprochent de ne pas suffisamment assumer. Et bien durant cet été où nous avons un peu le temps, nous revenons sur l'ensemble des événements et comment ne pas évoquer ce qu'on a appelé la révolte des Gilets jaunes, un mouvement totalement inédit qui a pratiquement traversé toute l'année d'actualité. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir François.
Vous avez couvert une vingtaine de samedis de mobilisation, plus d'une quarantaine de reportages. Lorsqu'on s'est interrogé ensemble, mais comment revenir sur les Gilets jaunes? Forcément, le 1er décembre dernier, nous étions à 3 semaines du début du mouvement. Tout est parti le 17 novembre d'une mobilisation sur les réseaux sociaux. On a découvert stupéfait que des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes en France descendaient dans la rue pour protester contre cette taxe d'essence. Et le 1er décembre, les choses dégénèrent. Nous sommes en haut des Champs-Élysées, la fameuse place de l'Étoile. C'est le journal de 18h sur Europe 1. Vous êtes, Pierre, en direct avec Fabienne Lemoyne.
Place de l'Étoile, on a vu ce matin des gilets jaunes taguer les piliers de l'Arc de Triomphe, d'autres entonner la Marseillaise autour de la tombe du soldat inconnu. Et en début d'après-midi, certains ont réussi à gagner le haut du monument. Pierre Herbulot, vous êtes sur place. Où en est-on ce soir?
Alors ce soir, Fabienne, la situation est toujours extrêmement tendue, je me répète, depuis ce midi, mais c'est un petit peu le jour sans fin. La place de l'Étoile est toujours remplie de gilets jaunes, la plupart avec un masque ou une écharpe autour de la bouche pour se protéger des gaz lacrymogènes jetés presque sans arrêt par les CRS. On voit des dizaines de carcasses de voitures incendiées, des barricades érigées, un immeuble particulier en partie saccagé. Une petite voiture sans conducteur a même été poussée par une dizaine de gilets jaunes vers des CRS comme un bélier. Une violence que tous les manifestants savent justifier, même les pacifiques encore majoritaires ici.
Malheureusement, voilà, ça finit en violence parce que mettez les gens au pied du mur et ils finissent par répondre, malgré tous les atouts qu'on peut avoir, la bienveillance et envie de protester pacifiquement, et ben, à un moment ça suffit pas parce que là-haut on a l'impression qu'ils nous prennent pour des idiots, quoi. Écoutez, ça tourne comme ça tourne, je suis là, je me fais juste brûler les yeux depuis ce matin. J'ai pas balancé de pavé, ça fait 3 semaines que je viens. Moi j'ai pas encore lancé de pavé, j'ai pas l'intention de lancer de pavé. Maintenant, force est de constater que j'en prends plein les yeux quand même. Donc j'ai envie de dire, il faut se révolter, c'est notre droit. Et en mémoire de tous ceux-là qui ne l'ont pas, ce droit est de fait un devoir.
Et une des images qui va rester, c'est l'Arc de Triomphe pris d'assaut, Pierre, vous me disiez, par les manifestants.
Oui, absolument. L'Arc de Triomphe, c'est le point de ralliement de cette manifestation avec maintenant ces tags écrits en noir sur le monument. Macron démission ou encore les gilets jaunes triompheront. Des dizaines d'entre eux ont réussi à se hisser, vous le disiez, en haut du bâtiment où ils font flotter des drapeaux français, encore à l'heure où l'on se parle. Plus tôt dans la journée, c'est au pied de cet Arc de Triomphe qu'une scène saisissante s'est déroulée. Des gilets jaunes à genoux devant la tombe du soldat inconnu en train de chanter la Marseillaise. C'est là aussi que quelques minutes après, les CRS se sont servis de leur matraque pour la première fois, sous mes yeux en tout cas, une réponse à une charge des manifestants. Bref, la semaine dernière le symbole c'était les Champs-Élysées, aujourd'hui c'est clairement l'Arc de Triomphe et les manifestants en ont bien conscience.
Voilà, nous étions, Pierre, donc le 1er décembre à 18h, au-delà du lieu emblématique de rassemblement, le symbole de l'Arc de Triomphe, ce qu'il représente pour l'histoire de France, pour la République aujourd'hui, on retiendra le visage sidéré d'Emmanuel Macron et de la plupart des ministres qui viennent le lendemain dans ce paysage absolument dévasté. Ça marque véritablement ce 1er décembre un tournant dans le mouvement, Pierre.
Oui, le gouvernement est contraint de réagir pour faire face aux casseurs d'une part, mais surtout pour répondre à ce profond malaise social. 10 jours après cette manifestation, Emmanuel Macron fait des annonces. Plus 90 euros pour les salariés au SMIC, annulation de la hausse de la CSG pour les petites retraites, annulation aussi de la taxe sur les carburants, coût estimé 10 milliards d'euros.
10 milliards d'euros, mais ces annonces, Pierre, ne suffiront pas. Deuxième grande surprise de ce mouvement, la mobilisation va continuer et va obliger le pouvoir à apporter une réponse absolument inédite.
Oui, c'est le grand débat. Une consultation nationale qui passe par des échanges d'idées organisés un peu partout, par des cahiers de doléances remplis dans les mairies aussi. Quelques mois plus tard, le gouvernement en fait la synthèse, il faut le dire, de manière assez peu transparente. Et c'est parti pour une deuxième batterie de mesures. Une baisse d'impôts pour 15 millions de foyers, la pérennisation de la prime de fin d'année défiscalisée, et puis l'assouplissement du RIP, référendum d'initiative populaire. Quand la loi sera votée, certains sujets pourront être soumis à référendum avec la signature d'un cinquième des parlementaires et celle d'un million de Français. Conséquence ou pas, en parallèle, la mobilisation des gilets jaunes faiblit très fortement. De 280 000 manifestants le premier samedi, on tombe à 28 000 quatre mois plus tard.
Oui, c'est une réalité, même si les chiffres seront alors soumis à caution. Mais il est clair que 6 mois après le début du mouvement, à la fin du mois de mai, vous aviez pu faire un premier bilan avec l'un des leaders des gilets jaunes dans le Pas-de-Calais, à Béthune, Lionel Brandao, en était à sa 27e manifestation.
Retourner à nos bases du carburant et du pouvoir d'achat. Beaucoup de demandes sont légitimes, parce qu'en France, il y a quand même un malaise partout. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas tout régler en quelques mois. Donc, je pense, on est quand même certains à le penser, qu'on devrait retourner à nos bases, tenter d'avoir des assemblées citoyennes au niveau des gilets jaunes pour avoir un vrai dialogue avec l'État.
Il y a eu le grand débat quand même, ça a servi à rien pour vous ?
Non, ça sert à rien. Ça a été de l'enfumage pour nous, ça a été de l'enfumage par rapport à la campagne électorale des européennes.
Alors aujourd'hui, François, les résultats de l'élection, on les connaît. Le Rassemblement national en tête avec 23% des voix. L'expression d'un ras-le-bol, sans aucun doute, a relativisé légèrement puisque le parti En Marche d'Emmanuel Macron arrive juste derrière à 22%.
Effectivement, peu d'impact finalement électoral par rapport à la mobilisation dans la rue, mais où en est-on aujourd'hui ?
Eh bien, on croise encore des irréductibles gilets jaunes les samedis à Paris et dans les grandes villes, mais ils ne sont plus que quelques milliers, toujours insatisfaits par les mesures et la politique du gouvernement. En lisant la presse locale, en ce moment, ces dernières semaines, on tombe sur des articles comme celui-là du Républicain Lorrain. Gilets jaunes à Metz, il devait être 300, l'organisateur était seul. Mais les commerçants qui ont perdu en moyenne 25% de chiffre d'affaires depuis le début du mouvement, François, d'après un rapport parlementaire, craignent, eux, un retour en force du mouvement à la rentrée.
Oui, parce que le mouvement a peut-être été justement trop fort pour qu'il ne soit juste oublié et jeté dans les oubliettes de l'histoire. Et c'est bien pour cela qu'on voulait avec vous faire cette rétro d'actu, les Gilets jaunes.
18h, 20h, François Claus sur Europe 1.
Et retour à l'actualité du 31 juillet avec vous, Marion Jorth, les grands titres du jour.
La journée de samedi sera noire sur les routes dans le sens des départs, prévision de bison futé. Ce sera même la journée la plus difficile de l'été partout en France pour le traditionnel chassé-croisé des vacances entre juilletistes et haussiens. C'est le 45e suicide dans la police depuis le début de l'année. Un CRS de Rennes a été retrouvé mort ce matin. Il s'est suicidé avec son arme de service. Il était âgé d'une quarantaine d'années et avait 3 enfants. Un accord trouvé entre 5 pays européens, dont la France, pour accueillir les 116 migrants du Gregoretti. Cela fait plusieurs jours qu'ils s'étaient coincés au large de l'Italie. Notre pays est fidèle à ses principes, responsabilité, solidarité et coopération européenne, s'est exprimé Emmanuel Macron dans un message publié sur son compte Twitter. Et puis, 6 jours après la fin du Tour de France, Julien Alaphilippe défendra son titre samedi lors de la Clásica San Sebastián en Espagne. Il avait remporté la dernière édition.
Merci Marion Jorth.
Et dans un instant, François, un petit coup de projecteur sur un certain Patrick Fouquet qui a changé de voix, si j'ose dire. Et c'est le cas de le dire.
Il travaille dans la voirie.
Exactement. Il est devenu champion du monde de fabrication de confiture.
Eh oui, il fallait oser.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. François Claus, il est 18h52.
Et à 18h52, tous les soirs, nous vous proposons le témoignage de quelqu'un, Marlène, qui a décidé de vivre sa passion. C'est un exemple pour nous tous ce soir, Monsieur Patrick Fouquet. Il est arrivé à la retraite, Monsieur Fouquet. Il a décidé de développer sa passion. Quand il ne s'occupe plus des voiries, des routes, des ronds-points de sa collectivité locale, eh bien il fait quoi ? Des confitures.
Ça remonte à une dizaine d'années, hein, donc je faisais déjà des confitures pour mes proches. J'ai fait ensuite un premier concours et je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. À l'issue du premier concours, c'était un concours de confiture insolite organisé par l'Ordre des maîtres confituriers de France. J'ai obtenu le premier prix. Pour moi, c'était extraordinaire, c'était super. Moi qui n'avais jamais été dans ce milieu, j'ai poursuivi après, j'en ai fait d'autres, des concours. Parce qu'en un an de temps, j'ai gagné quand même 5 prix, donc 3 premiers prix. Et le dernier, celui du championnat du monde.
Et le champion du monde, Patrick Fouquet, fabrique aujourd'hui 5000 pots de confiture par an. Ce n'est pas rien. Alors évidemment, il ne dort plus beaucoup parce qu'il fait tout ça sur ses heures de bureau. Et dans les années qui viennent, il aimerait développer, voire même tripler cette production, mais en gardant, c'est le plus important, sa cuisson au chaudron. Nous avons demandé à Patrick Fouquet s'il avait son petit secret, le petit truc en plus qui lui a permis de devenir champion du monde.
Disons que j'ai proposé une confiture de fraises rhubarbe vanille bourbon. C'est une confiture de nos grands-mères. Les fraises de jardin, la rhubarbe de jardin. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Les autres candidats se sont peut-être aventurés sur des mariages de fruits ou d'épices un peu hasardeux. Et moi, en faisant tout simple, j'ai gagné. Voilà, c'est une nouvelle activité. J'ai à l'aube de la retraite, hein, parce que la retraite, maintenant, je pense qu'elle va s'éloigner. Je vais en prendre pour 10 ans, parce que là, je suis en train de poursuivre cette activité. J'ai beaucoup de demandes avec ce prix au niveau des confitures. Donc, faut pas hésiter dans la vie. Hein, si on a une idée, il faut y aller. Il faut se lancer. Sinon, après, on peut regretter toute sa vie.
Et oui, il fallait oser. Alors, on va préciser, Marlène, que les confitures de Patrick sont en vente sur Internet. Hein, c'est sur le site fouquet.fr. Fraises, rhubarbe, vanille, bourbon. on prend, on goûte. Merci Anne Le Gall pour ce témoignage. Allez Marlène, on finit par le sourire de l'été. Il nous a fait rire toute l'année. Donc, pourquoi s'en priver cet été ? Le best-of de Monsieur Canteloup avec Julie.
François Hollande est avec nous maintenant.
Oui.
Bonjour.
Comment vous avez trouvé Emmanuel Macron, vous, Monsieur Hollande ?
C'est Non, bien, écoutez, je trouve qu'il a été clair, chaleureux, mal rasé, nous l'avons dit, mais chaleureux, dans l'écoute, empathique. Non, vraiment, vraiment, j'ai apprécié sa prestation. Vraiment, je... Oui. Mais non, je déconne, elle a eu celle-ci.
Pourquoi ça ne vous a pas touché son discours?
Mais non, bon, enfin, c'était ridicule. Je ne vous parle même pas du couplet de fin, là. Mon seul souci, c'est vous. Et dis donc, c'est plus un président, c'est quoi? C'est Barbara, hein? Hein? Du plus loin que je me souvienne, mon seul souci, c'est vous. Merci, l'Olympia! Merci! Oh, la chialeuse, hein, j'avais envie de lui coller des baffes.
Alors, ce qui vous touche, c'est quoi? C'est le climat délétère, la violence dans les villes?
La violence dans les villes. Vous avez vu les chars d'assaut dans Paris?
Bah, oui.
Et des blindés. Hein. Avant, Macron, c'était le président des riches. Maintenant, c'est plus. Hein, c'est le président des blindés. Allez, c'est bon, c'est la punchline. Un riche blindé, vous l'avez?
Oui, on l'a. Merci.
Cabrol, réveillez-vous.
Allez, une nouvelle un peu folle mais sérieuse hein, pour terminer, c'est paru dans l'Express. Le nouveau TGV indien a été stoppé net par une vache. Il avait été inauguré la veille par le président. On va accueillir un autre monsieur syndicat SNCF. Bonjour monsieur Régis. Ça vous fait réagir, hein, vraiment. Ça
prouve une fois de plus au monde entier l'excellence à la française.
En termes de train?
Ben non, en termes de vache. La vache française, elle est intelligente. Elle regarde passer le train peinarde, hein, de droite à gauche, des fois de gauche à droite. Oh tiens, il n'y a pas de train, doit y avoir une grève. Elle est intelligente, elle comprend la vache française. Mais jamais, jamais comme la vache indienne, elle va essayer de monter dans le train. En plus, elle n'est même pas munie d'un titre de transport. Hein, comme la vache indienne, parce qu'il faut dire la vérité, elle reste qui est la vache indienne. Elle est malhonnête, la vache indienne. Hein, bon, y a une bonne nouvelle tout de même dans cette affaire.
Ah bon, laquelle?
Ben elle devient la vache la plus rapide du monde, 180 km/h. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 guépards qui ont dû faire la gueule en la voyant passer.
C'est bon à entendre, c'est bon à réentendre, c'est du Canteloup.
Et après la météo, le journal, eh bien on va parler de Maradona dans un instant, enfin dans le 19-20, c'est votre invité Grégory Schneider, journaliste à Libération.
Ah, c'est pas Maradona l'invité, j'aurais aimé.
Non. Le journal, Thibault Lambert. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Marlène, bonsoir à tous. Au lendemain des conclusions de l'IGPN, qui n'établit pas de lien direct entre l'intervention des forces de l'ordre le soir de la fête de la musique et la mort de Steve Canisso repêché lundi dans la Loire, eh bien force est de constater que ce rapport ne satisfait pas grand monde, ni l'avocate de la famille de Steve qui met en cause sa partialité, ni la mairie de Nantes, ni même l'exécutif qui a donc chargé l'inspection générale de l'administration d'une nouvelle enquête. Le ministre de l'Intérieur a tenu à le rappeler ce matin lors d'un déplacement aux côtés d'Edouard Philippe dans l'Essonne.
Il y a un certain nombre de sujets, le Premier ministre l'a rappelé hier, des questions qui sont totalement ouvertes sur la préparation de cet événement, mais aussi encore des questionnements sur la gestion de l'intervention de la police, et donc on a souhaité compléter cela par un rapport de l'inspection générale de l'administration. Donc ce qui compte, c'est aujourd'hui de faire, comme l'a rappelé le Premier ministre, toute la transparence. Nous portons cette exigence de transparence et de vérité. C'est d'abord une demande de la famille, elle est légitime, mais c'est une demande des Français. Et donc le gouvernement est totalement engagé, le ministère de l'Intérieur sous l'autorité du Premier ministre, pour faire toute la transparence et répondre à toutes les questions.
Christophe Castaner au micro d'Aurélie Herbemont. Une enquête donc sur l'organisation de cette soirée par la préfecture et la ville de Nantes. Car beaucoup de zones d'ombre subsistent. Pourquoi cet événement sur ce quai Wilson au bord de l'eau? Fallait-il plus de protection? Ce n'est pourtant pas une première. Les sound systems s'y installent chaque année, comme l'explique Samuel, coordinateur de l'association Freedom, un Nantais qui a l'habitude d'aider les organisateurs de rassemblements festifs.
C'est un endroit que, à titre personnel, je connais bien. Ça fait quasiment, en tout cas pour ma part, 20 ans que la partie électro, on va dire, de la fête de la musique se tient sur cette zone-là. Elle se déplace dans plus ou moins 100 mètres. Et à chaque fois, donc, les amateurs, les musiciens, les groupes de musique électronique se donnent rendez-vous là, de manière informelle, de façon à pouvoir jouer leur musique devant leur public et ne pas déranger trop les riverains. Parce que c'est l'intérêt de cette zone-là, c'est qu'elle est écartée des habitations.
Et quels sont les rapports avec les pouvoirs publics dans les jours qui précèdent et le jour J de la fête de la musique ?
À notre connaissance, il n'y a jamais eu de prise de contact entre les musiciens qui vont s'installer là. Mais je dirais qu'un peu comme l'ensemble des musiciens sur Nantes qui s'installent pour la fête de la musique, à part les très grosses structures qui, du coup, nécessitent une autorisation. Mais les gens s'installent là de manière un peu spontanée. C'est comme on ne sait pas à quel endroit va sortir un groupe de rock dans les rues de Nantes. Les gens d'électro prennent, alors, pas la rue, mais le quai, pour faire de la musique. C'est un lieu d'habitude pour l'électro à Nantes, pour la fête de la musique.
Propos recueillis par Salomé Legrand. 350 pompiers toujours mobilisés contre la reprise du feu dans le Gard. Près de 500 hectares de forêt et de broussailles brûlés en moins de 24 heures à Générac, près de Nîmes. Le gigantesque incendie qui n'a touché aucune habitation est désormais fixé. Un inconnu vous offre des cigarettes. Attention, c'est peut-être une arnaque très dangereuse pour la santé. À Roanne, 6 jeunes empoisonnés en quelques jours. Tous ont perdu connaissance après les avoir fumés. À leur réveil, le portable ou d'autres affaires ont disparu. Plus grave, certains se sont réveillés très agressifs, voire en état de délire. L'une des victimes s'est même mise à manger du gravier. Ce soir, la composition de ces cigarettes reste mystérieuse, explique le procureur de Roanne, Abdelkrim Grimi.
Ces cigarettes étaient souillées d'une substance chimique. Les analyses sont en cours, hein, puisque moi j'ai fait requérir un laboratoire. Des prélèvements de sang sur les victimes ont été effectués. Ces échantillons de sang ont été adressés au laboratoire. Il a même été indiqué par un médecin qu'il s'agissait d'un produit qui aurait un effet 300 à 400 fois supérieur à celui du cannabis. Il nous a été indiqué qu'il y aurait certainement eu un précédent à l'île de la Réunion, mais en tout cas sur le territoire métropolitain, à ma connaissance, il n'y a pas eu de précédent. Il y a de la vidéosurveillance à Rouen, sauf que à l'endroit où ça s'est passé, je dirais, ces endroits-là ne sont pas justement sur le champ de vision desdites caméras.
Le procureur de Rouen avec Virginie Salmen, une enquête est ouverte pour vol aggravé et administration de substances nuisibles. 5 pays européens dont la France acceptent d'accueillir la centaine de migrants bloqués à bord du Gregoretti. L'Italie refusait depuis une semaine de laisser débarquer ses rescapés de la Méditerranée faute d'accord de répartition. Chez Air France, le feu vert du premier syndicat des pilotes pour développer la filiale low cost. Un oui à près de 80% par référendum pour permettre l'essor de Transavia. Changement de pied donc, alors que le syndicat avait pesé de tout son poids il y a 5 ans pour freiner la compagnie. Guillaume Schmid est le vice-président du SNPL d'Air France.
Le conflit en 2014 était né de la volonté de la direction à l'époque de développer Transavia dans des bases européennes avec de l'emploi étranger et donc de faire du dumping social. Donc effectivement, dans ces conditions, nous n'étions pas d'accord. Aujourd'hui, la donne a complètement changé parce que nous sommes face à une direction qui nous inclut dans ces projets et qui a bien compris qu'on était des partenaires et que les pilotes d'Air France étaient capables de participer à la croissance de Transavia et de soutenir l'essor de cette compagnie. Et aujourd'hui, dans le groupe Air France KLM, Transavia est la compagnie qui permet de faire de la croissance sur moyen courrier. C'est une compagnie rentable, c'est un modèle qui fonctionne maintenant depuis 2007. Et les pilotes d'Air France, aujourd'hui, en donnant ce résultat et en approuvant ce référendum aussi largement, finalement, ont montré qu'ils avaient bien compris que Transavia était l'outil de cette croissance dans notre groupe.
Guillaume Schmitt, joint par Olivier Samin. Enfin, prudence, si vous comptez prendre la route ce week-end, samedi sera la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes. Bison futé, voie noire dans le sens des départs. La météo des plages à présent. Allez, on vous écoute, Laurent Cabrol.
Allez, un petit tour sur nos plages pour demain jeudi. Sur la Manche et la mer du Nord, des nuages seront là, mais ils seront discrets. 20 à 21 degrés dans l'eau, 19 à 20 degrés en bord de mer. Perros-Guirec, Barfleur, Deauville, Dieppe, Le Tréport. Sur l'Atlantique maintenant, entre Brest et Arcachon, donc sur le nord de l'Atlantique, un temps, disons, assez mitigé, avec nuages et éclaircies en alternance, 22-24 en bord de mer, 19 à 21 degrés dans l'eau. Et puis sur la partie sud, entre Arcachon et Biarritz, là ce sera un temps très orageux, hein. ce sont les orages dont nous parlons depuis tout à l'heure, des orages en Gironde, dans les Landes et Pyrénées Atlantiques. Ces orages vont glisser ensuite un petit peu dans les terres, mais pour nos vacanciers de bord de mer, ce sera pas très agréable. Température 23-24 sur le sable et 22-24 dans l'eau. Enfin en Méditerranée, du soleil pour tout le monde, parfois teinté de passages nuageux de quelques gouttes, mais seulement sur l'Hérault. Dans les autres régions ou sur les autres plages, ce sera un temps très ensoleillé, 27 à 28 degrés sur le sable, 23-24 dans l'eau, avec une pointe à 26 degrés à Nice.
Merci Laurent Cabrol.
Et c'était Thibault Lambert. Dans une dizaine de minutes, François, on va revenir sur cette saga de Woodstock.
Ben oui,
ce sera le troisième épisode.
19-20 de l'été, votre grand journal de l'été, Woodstock épisode 3. On va parler d'un musicien maudit, on l'a un peu oublié lui, dans la saga Woodstock, Tim Harding.
Trop méconnu.
Quel musicien. Vous allez voir avec Jean-François Pérez, formidable épisode. Puis ça nous amènera à la route des festivals d'aujourd'hui. On va aller à Colmar, boire avec modération un peu de Gewürztraminer. Et on va écouter qui ? Sting, Orelsan, on va vous faire vivre Orelsan. Et puis, les destins de sport de Jean-Claude Perrin. Tout à l'heure, on va parler d'un certain Alain Mimoun. Ça nous renvoie aux Jeux de Melbourne 56. Histoire extraordinaire. Mais dans un instant, notre invité, il est là, en studio. Et notre invité du soir, c'est Monsieur Grégory Schneider. Bonsoir Grégory.
Bonsoir messieurs, dames.
L'homme qui tient la plume et avec quel talent de libération sur toutes les questions de sport qui adore la musique. Quand on a dit Tim Harding, là, ses yeux ont brillé.
Lady came from Baltimore.
Ouais, voilà, tout de suite la référence. Mais Grégory Schneider, il est avec nous ce soir parce qu'on veut évoquer ce film qui sort aujourd'hui, signé du réalisateur anglais Arif Kapadia, un homme qui aime les destins brisés. Il a fait un film sur Ayrton Senna, il a fait un film sur Amy Winehouse. Et là, il sort aujourd'hui un film Maradona. Vous l'avez vu, je vous ai lu dans Libération ce matin. Vous n'avez pas trop apprécié le film lui-même.
L'histoire est tellement, l'histoire de Maradona est tellement exceptionnelle. Et en plus, il n'y avait pas grand-chose sur lui quand même. Donc ça a un intérêt un peu, par définition, de par son sujet, l'intérêt est là quand même.
Parce que c'est là la question, Grégory, comment faire un film sur quelqu'un qui est, dans sa vie, dans son destin, un personnage de film lui-même.
Bah voilà, c'est très compliqué, d'autant que... Alors, il y a un témoignage qui est quand même assez intéressant, qui est celui du préparateur physique personnel de Maradona, qui explique que Maradona s'est construit une sorte de double. Pour pouvoir résister justement à toutes les prédations qui se sont abattues sur lui, alors qui sont diverses, l'argent, les médias, la drogue, les cercles d'influence. Et Maradona, en fait, c'est le préparateur physique, en fait, dissocie Diego, qui est le petit bonhomme, qui est le petit footballeur qui vient d'Argentine, d'un quartier pauvre, et qui, de Maradona, qui est cette espèce de Falstaff des tropiques, qui s'est construit pour résister au monde qui l'environne. Et c'est en ça, c'est très intéressant parce qu'on voit quand même un petit peu ce jeu entre l'homme qu'il est et le personnage que Maradona s'est construit.
Alors, l'homme qu'il est, on a tous des images en tête de Diego Maradona, l'une des plus fortes, c'est évidemment cette main qui le qualifiera de main de Dieu en Coupe du Monde contre l'Angleterre et qui nous offrira dans les minutes qui suivent un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde en dribblant quasiment toute l'équipe anglaise. Les deux Maradona sont là en une image de football, Grégory.
Voilà, et sur le but de la main, alors ça, c'est il y a le témoignage du joueur juste après, c'est un petit peu contextualisé, ça c'est passionnant, parce que justement on a l'impression que Maradona n'y voit pas quelque chose de vicieux ou de pervers, il n'y voit pas une déviance. Ça reste du sport, ça reste quelque chose qui appartient au match, qui appartient au moment, qui appartient à l'Argentine. C'est-à-dire que nous, on voit cette main comme quelque chose d'un peu diabolique, une espèce de une ruse, une déviance un petit peu, quelque chose comme ça. Mais lui, non. Il se pose déjà en leader tiers-mondiste de manière très claire. Donc, il est argentin avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et il y voit une forme de justice où il y voit quelque chose comme ça. Et ça nous rappelle à tous que le football est mondialisé. Donc, on est bien obligé des fois de sortir de son propre prisme occidental judéo-chrétien sur la faute, sur le pour essayer d'adopter le point de vue de quelqu'un. Le foot lui appartient autant qu'à nous, et d'ailleurs plutôt plus à Maradona qu'à moi, si vous voulez. Donc ça force un peu ça nous force à réfléchir un peu comme lui réfléchit. Et donc ce but de la main, moi je l'ai vu un peu différemment après avoir vu le film et les séquences qui s'y rattachent, en fait.
Alors le film revient également sur les années qu'on connaît peut-être un petit peu moins de l'arrivée à Naples, ville grand port méditerranéen, ville de toutes les mafias, de tous les trafics. Ce qui se disait, c'est que Maradona, il a sombré parce qu'il a été finalement, d'une certaine manière, coopté par la mafia locale qui a entraîné la chute qui viendra quelques années plus tard.
Alors oui, mais ça, alors pour le film, il donne quand même son propre témoignage. Alors ensuite, il s'est un petit peu rétracté en disant qu'on l'avait manipulé ou ceci, cela, mais enfin, il parle. Et je trouve qu'il assume quand même, il met pas ses addictions sur le dos d'un contexte ou sur le dos de la mafia, où c'est vraiment des choses qu'il assume. C'est pas quelque chose de... En tout cas, il se victimise pas par rapport à ça. Il se comporte un peu en homme, rétrospectivement. Il a failli quand même y rester à plusieurs reprises. Mais c'est quelque chose, en tout cas, dont il estime que ça fait partie de sa propre histoire. Et alors, quelque part, parce qu'on a ça et on a les images de match, c'est quelque chose qui fait même partie de sa propre force. Parce qu'il faut quand même mesurer de ce que c'est que d'être le sportif qu'il est. Je veux dire, il est quand même sur le terrain deux fois par semaine, alors qu'il est sous coke quatre jours par semaine. Alors, c'est en général du dimanche soir après le match jusqu'au mercredi. Alors là, il se calme un peu, il s'œuvre et ça avance comme ça. Et il tient presque un an et demi, deux saisons comme ça. Ça vous laisse quand même deviner la force à la fois physique et mental de ce type pour être le footballeur qu'il a été compte tenu de ses addictions et donc de son penchant pour la drogue et la cocaïne.
Alors, beaucoup de réactions. Le personnage de Maradona, c'est quelque chose qui fascine, c'est quelque chose qui nous renvoie chacun a son souvenir avec Maradona quand on aime le foot. Je voudrais prendre l'avis, par exemple, de Charles-Antoine qui nous appelle. Bonsoir, Charles-Antoine.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Vannes et vous vouliez réagir.
Voilà, alors j'ai vu le film aujourd'hui que j'attendais, je dirais, avec une certaine impatience parce que j'avais déjà vu Amy du même réalisateur, ouais. Amy Winehouse. Et voilà, j'avais beaucoup aimé son style de documentaire, donc je me suis dit que j'irais voir à quoi ressemble Diego Maradona.
Vous n'êtes pas un amateur de foot, hein, particulièrement, Charles-Antoine?
Alors, en fait, voilà, c'est ça, c'est que je suis pas un grand connaisseur de foot, même si, par exemple, quand il y a les Coupes du Monde, ça, je suis plutôt pas mal. Mais à côté de ça, je suis pas un grand spécialiste du football. Donc, c'est plutôt par curiosité
que je
suis allé voir. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup les films, voilà, qui relatent souvent les ascensions, les gloires des personnalités. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que c'était un peu fait pour moi, quoi. Voilà.
Et vous n'avez pas été déçu,
alors. Et j'ai pas été déçu. Surtout que ça reste un personnage, voilà, légendaire, qu'on soit un grand fan de foot ou autre. Quand même dont j'avais entendu parler.
Il nous laisse pas indifférent. Il y a une image également très forte qu'on doit retenir. Ses larmes pendant l'hymne argentin lors de la finale qu'il a atteint en Italie. J'ai dit il tellement il a porté à ce moment-là l'équipe d'Argentine qui réussit à éliminer le grand favori d'Italie en demi-finale. Il est sifflé avant la finale et on le voit mais plein de rage en ce moment. Ça aussi, c'est Maradona, oh, Grégory.
Oui, parce qu'en fait, on voit même ses réflexions après, je vais leur montrer à ces fils de pute. Il se construit toujours contre quelque chose, en fait. Il se construit contre les journalistes qui ont douté de lui, contre l'adversaire, Et ce faisant, il se pose quand même très souvent en leader tiers-mondiste. On en a un petit peu parlé, mais on voit à travers ces images-là, c'est un petit peu l'équivalent d'un Bob Marley ou d'un. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui transcende, qui a une portée politique évidente. En plus, il accusait la FIFA à l'époque de corruption. Bon, il n'avait pas tort. L'avenir lui a donné raison, mais en tout cas, il endosse et c'est en ça qu'on voit un peu le personnage extraordinaire qu'il est. C'est-à-dire que maintenant, on voit les sportifs modernes, si vous voulez, ont beaucoup de mal à endosser une dimension politique. Ou alors, on l'a eu un peu avec Megan Rapinoe, les Américaines. Mais bon, c'est marginal et c'est rare. Maradona, lui,
il l'avait
ce cran-là.
C'était pas la star, on regarde sa coupe de cheveux, non, ses followers.
Et il surfait quand même sur le jeu préféré des hommes. Une finale de Coupe du Monde, c'est 2 milliards de gens devant la télé. Il assumait tout ça, ce poids-là. Il faut quand même être un type complètement hors norme. Ouais.
Et le Maradona, dernière question, Grégory Schneider, d'aujourd'hui. Il y a une forme de tristesse à le voir aujourd'hui, essayer d'exister dans ce qu'il a été et qu'il n'est plus totalement.
Il y a bien sûr une forme de tristesse, mais chacun se fait sa réflexion personnelle, mais il en va de... Vous savez, un footballeur, c'est un saltimbanque, comme un artiste, comme un comédien, comme un... Il ne faut absolument, quoi qu'on pense du personnage aujourd'hui, toujours garder en tête... Quand on s'adresse à lui ou quand on pense à lui, toujours garder le mec qu'il a été. On n'a aucune chance de croiser un type comme ça dans la vie quotidienne. C'est des types qui ont porté des planètes sur les épaules. Je veux dire, ça se respecte et il faut pas, comment dire, hurler avec les loups ou un peu comme une hyène essayer de dépecer le. Ça a été un type tel qu'on lui doit ce respect, même au-delà de son... Voilà.
Et le garder, aller voir éventuellement Madonna, le film d'Arif Kapadia. Maradona, j'ai dit Madonna là ?
Non,
Maradona, bien sûr. Et on remercie Charles-Antoine qui nous a appelé. Grégory Schneider, on le lit dans Libération sur les pages sport. Et merci de nous avoir accompagnés ce soir avec vos réflexions, Grégory.
Europe 1. Comme tous les soirs à 19h20 cet été sur Europe 1, on revient sur l'un des grands moments de l'histoire de la musique qui est Woodstock, le festival, avec un focus ce soir sur un artiste trop méconnu, vous le disiez François tout à l'heure, Tim Hardin. Et c'est le troisième épisode de notre saga. Europe 1.
Kill a man. You know, I'm a human being and that's all I want to be.
Helping everybody.
We must be in heaven, man.
Il y a 50 ans, la révolution Woodstock.
Freedom. Freedom. Maybe we can stop this flame.
Just feel the energy.
Jean-François Pérez.
François Claus.
La révolution Woodstock, 50 ans après, presque jour pour jour, nous le vivons sur Europe 1 tous les soirs avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir François.
Nous étions hier avec Richie Evans, l'homme dont le destin a basculé avec Woodstock. Et nous sommes le premier jour du festival, un peu plus tard. Qui entre donc sur scène ce soir-là ?
Eh bien, l'un des esprits les plus tourmentés des années 60, Bob Dylan le considérait comme le meilleur compositeur américain contemporain. Son plus grand succès a été repris par des noms aussi célèbres que Johnny Cash, Robert Plant de Led Zeppelin, John Baez, Elton John et même Johnny Hallyday, mais oui. Mais son addiction aux drogues dures et sa peur de monter sur scène l'ont rapidement poussé vers la marge malgré son immense talent. Tout le monde l'a oublié, ou presque, mais pas nous. Nous sommes le 15 août 1969 à Woodstock, peu avant 22h, dans un état qu'on qualifiera d'incertain. Il prend sa guitare et entame « If I Were a Carpenter », une histoire d'amour toute simple, inspirée au moins inconsciemment de Marie et de Joseph, les parents de Jésus-Christ. Voici Tim Hardin.
If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love for loneliness, I save my love for sorrow. I've given you my onlyness. Give me your tomorrow. If I were much poorer than you seem to see me, would you be surer I couldn't really be me? If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby?
Jean-François, la vie de Tim Hardin est un roman ou c'est une vie romancée en tout état de cause?
Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il est né en 1941 à Eugene, dans l'Oregon, à 600 km au nord de San Francisco. Il aurait été un lointain descendant de John Wesley Hardin, qui était un célèbre hors-la-loi américain du 19e siècle, pistolero hors pair du Far West, qui comptait pas moins de 30 meurtres à son actif, meurtres d'honneur, assurait-il. À 18 ans, Tim Hardin s'engage dans les Marines, il part en Asie, au Vietnam, bientôt en guerre, découvre rapidement, hélas, l'héroïne.
Quand il revient aux États-Unis, il vit de divers boulots éphémères, professeur de guitare à Harvard, à l'université, chanteur à Boston, où il se fait repérer avant de devenir une référence du Greenwich Village à New York, aux côtés de Bob Dylan, Fred Neil et autres futurs stars du mouvement folk. En à peine 9 mois, il va composer dans l'anonymat ses titres les plus marquants et son heure va arriver enfin en 1966 avec un premier album sobrement intitulé Tim Hardin 1-1. C'est un chef-d'œuvre, des chansons courtes, ciselées, magnifiquement arrangées au service d'une voix sincère et émouvante. Voici l'une des plus belles, la plus reprise d'entre toutes aussi, qui offrira à Rod Stewart un immense succès, Reason to Believe.
If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied, straight faced while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied, straight faced while I cried, still I'd look to find a reason to believe.
Jean-François, Tim Hardin va récidiver avec un deuxième album, sobrement intitulé également Tim Hardin 2, et il est tout aussi réussi.
Oui, et il contient le fameux If I Were a Carpenter version studio, même si la chanson a déjà été créée et reprise par d'autres. C'est l'heure des succès, des récompenses, des grands concerts. Il fait salle comble à Londres sous les yeux de certains Beatles et Rolling Stones. C'est également l'heure de la stabilisation familiale avec son épouse Suzanne Moore, actrice à Hollywood, et puis aussi de son adorable petit garçon.
Mais Jean-François, quand on a un destin rock qui s'accroche à la peau, eh bien le destin revient.
Oui, victime d'une pleurésie, sans doute liée à ses excès. Il doit d'abord annuler une tournée en Grande-Bretagne. Son comportement est de plus en plus erratique. Alors il va tenter le tout pour le tout en s'installant en famille à la campagne, près de Woodstock, justement. Mais c'est peine perdue. Son mariage vole rapidement en éclats et Hardin s'enfonce dans l'alcool et la drogue au point de vendre les droits de ses propres chansons pour une valise de billets, évidemment rapidement dilapidée. Marginalisé, malgré quelques albums acceptables, mais qui souffre de la comparaison avec les premiers, le chanteur rentre chez sa mère dans l'Oregon avant d'être retrouvé mort chez lui à Los Angeles en décembre 1980, juste après l'assassinat de John Lennon. Overdose de morphine et d'héroïne, la nouvelle ne fera que quelques lignes dans les journaux. Écoutez pourtant encore une fois son génie mélodique à l'œuvre sur un titre repris par Françoise Hardy en son temps, Hang on to a dream, accrochez-vous à votre rêve, Tim Hardin sur Europe 1.
What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you, it's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's the same way through how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems?
can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream?
Comment peut-on s'accrocher à un rêve? Comment peut-il ressembler à ce qu'on imagine, chante Tim Hardin, Jean-François.
Oui, c'est une équation qu'il n'aura, hélas, jamais trouvée. Heureusement, les nouvelles générations ont redécouvert Tim Hardin. Un album de reprise est paru il y a quelques années, très réussi. Et puis son fils Damien, dont on parlait tout à l'heure, qui est aujourd'hui chef cuisinier en Floride, après avoir longtemps vécu dans les bois. Eh bien, Damien promet un film sur la vie d'un père qui a été évidemment trop absent et qui jouait dans la cour des Bob Dylan, Jimi Hendrix ou encore Van Morrison, mais qui s'était brûlé les ailes bien trop tôt pour voler longtemps.
Et c'est bien pour cela qu'il méritait qu'on revienne sur son histoire. Tim Hardin qui enflammait Woodstock. Demain, on a déjà envie d'être demain. L'épisode 4 avec Jean-François Pérez et surtout Marlène dans un instant de Woodstock. Aujourd'hui, nous reprenons notre route des festivals en France. On va aller vers Colmar.
Et sur la route des vins. Il est temps de partir sur la route des festivals de l'été avec vous, François Claus.
Et la route des festivals, ce qui est bien, c'est qu'on traverse la France. Nous étions hier dans les Landes et nous allons nous retrouver tout au bout de la France, de l'autre côté, à l'Est, pour ce qui s'apparente comme le plus grand festival de l'Est de la France. J'allais dire, quand le vin est bon, quand la musique est bonne, ben cela fait des bonnes soirées et cela donne la foire au vin de Colmar. Et je suis heureux d'accueillir ce soir en direct sur Europe 1 son directeur Christophe Krupi. Bonsoir Monsieur Krupi.
Bonsoir.
C'est donc à la fois une foire au vin, Colmar, ses colombages, son histoire alsacienne, la route des vins, les grands crus alsaciens et un festival de musique. Il s'agit pour vous d'allier pendant 10 jours deux plaisirs finalement.
Oui, on allie les plaisirs de la gastronomie alsacienne autour des bons vins d'Alsace à une ambiance commerciale avec cette foire qui a été créée en 1948 et à cette partie musicale qui nous donne vraiment une spécificité et qui donne à la manifestation toute son attractivité.
Alors, c'est un succès qui ne se dément pas. Hein. 300 000 visiteurs attendus sur Colmar en 10 jours. Et donc, ce mélange assez inédit entre des crus qui nous font rêver, Gewürztraminer, Riesling, bien sûr, Pinot Noir d'Alsace, et des grands artistes comme Sting, comme M, comme Patrick Bruel. L'idée, c'est que la musique fait venir des gens au vin ou c'est que les gens du vin ont besoin de musique, Christophe Krupi ?
Mais c'est un petit peu tout à la fois, puisque l'un ne pourrait pas fonctionner avec l'autre. Et à l'époque, lorsque la foire au vin est née en 1948, la partie musicale a été rajoutée en 1957 par Johnny Stark, qui était l'impresario de toutes les grandes vedettes. Je pense que les personnes n'imaginaient pas que 72 ans après, on était toujours sur la même formule gagnante, qui a évolué, bien entendu, une manifestation qui a eu besoin aussi de s'adapter à son temps et qui aujourd'hui réunit dans cette même sphère tous ces univers, musique, ambiance festive, ambiance de dégustation, ambiance commerciale. Et l'un vraiment alimente l'autre et le public ne s'y trompe pas parce que celui qui va au concert découvre la foire et celui qui découvre la foire se dit « Tiens, je pourrais peut-être aussi aller voir une des têtes d'affiche » Ça pourrait être intéressant.
Oui, ça va donner des idées à d'autres régions de France. Alors si la musique se consomme sans modération, on rappelle évidemment qu'il faut consommer avec plaisir, mais modération, ces grands vins d'Alsace que j'évoquais à l'instant. Le festival a débuté vendredi dernier. Il se déroule jusqu'au dimanche 4 août prochain. C'est Patrick Bruel, d'ailleurs, qui sera en clôture. C'est une programmation très éclectique. Hein. On a pu voir M en concert samedi dernier. Et vous allez sur un registre très, très large, Christophe Krupi.
Oui, c'est un petit peu l'ADN de notre festival, c'est de s'adresser à tout type de public. Et en cela, la foire au vin est vraiment, on fait des passerelles très larges. On passe de la musique électro. On a déjà accueilli des David Guetta. Cette année, on accueille des DJ comme Dimitri Vegas, Like Mike. Donc, de là, on peut aller sur un concert comme M, comme Roger Hodgson. On a aussi fait du métal. On fait des spectacles pour enfants. Donc voilà, c'est vraiment notre souhait et le plus cher, c'est de pouvoir satisfaire tout type de public au moins une fois par soir.
Et c'est cette formule qui est gagnante. Bien, samedi à 16h, voilà ce qu'on pourra entendre dans la foire au vin de Colmar.
Écoutez l'histoire d'un sacré félin, un curieux gros chat qui avait toujours faim. On l'appelait Pépette, c'était son petit nom. Il était né sur la planète des matous glouteux. Il mangeait du nougat, du poulet, des anchois, un canapé, un casse-noix, du barbelé, la mort au rat et la télé. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout.
Aldebert, véritable star des familles et des enfants, qui prépare d'ailleurs un nouvel album au mois de novembre prochain. Ce sera à 16h samedi. Là, on le voit vraiment, vous voulez faire venir les parents qui pourront peut-être aller écouter de l'électro une fois que les enfants seront avec la babysitter, et les enfants pour qu'ils puissent participer à la fête, Christophe Krupi.
Oui, c'est un petit peu ça. C'est votre image est tout à fait vraie. Mais effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de proposer ce type de spectacle qui s'adresse vraiment à un public bien particulier, les enfants. Et c'est aussi ce qui fait le charme de cette foire au vin, c'est que on y va avec les parents. Parfois, c'est le premier concert de sa vie, donc c'est des choses qui marquent, c'est des émotions qui marquent, avec en plus un artiste comme Aldebert. Ça se transmet de génération en génération. Alors aujourd'hui, la foire au vin, c'est vraiment un public de 7 à 77 ans qui se déplace et qui vient dans les allées découvrir les animations pour enfants, les animations pour adultes. C'est vraiment ce mélange qui nous fait vibrer chaque année.
Et vous êtes dans un lieu qui ne cesse de s'agrandir et de prendre de l'espace.
Oui, on est sur le lieu du Parc des Expositions de Colmar qui, cette année, a inauguré un nouveau hall, de manière à assurer aussi le développement de la manifestation. Je disais tout à l'heure d'être en phase avec son temps, et c'est exactement l'objectif du développement du lieu, c'est de pouvoir apporter des services qui sont aujourd'hui nécessaires pour répondre à la demande des visiteurs, et ça permet à la manifestation de prendre un nouvel envol, de nouvelles trajectoires.
Alors il y aura du côté des vins un hommage très particulier à un grand nom du vignoble alsacien, puisqu'il nous a quittés il y a quelques jours, et tous ceux qui aiment les vins d'Alsace ont vu un jour ou l'autre ce nom sur une étiquette, Pierre-Étienne Dopf, qui a quasiment fondé et inventé le crémant d'Alsace, Christophe Krupi.
Oui, c'était un grand personnage, une figure emblématique du vignoble alsacien. De par il est à l'origine de la création du crémant qui aujourd'hui est dans le top des ventes des vins d'Alsace. Mais il a également œuvré dans toutes les familles professionnelles pendant de très nombreuses années, et était également exposant historique de la foire au vin jusque dans les années 2012. Donc c'est vraiment un grand personnage, et cette manifestation effectivement lui est en partie dédiée.
Et en sirotant, en buvant un excellent crémant d'Alsace avec modération bien sûr, on pourra écouter les deux têtes d'affiche. Une, c'est le rappeur Orelsan qui sera là, et on va en parler dans un instant avec Naïma Benchemann.
h 39, tout va bien sur Europe 1. On reste à Colmar avec vous, François Claus, et puis on part rejoindre Naïma Benchemann.
Tout va bien, petit tout va bien.
Et c'est lui très clairement qui est ce soir la star de la foire au vin de Colmar. On l'a reconnu, Orelsan. Bonsoir Naïma Benchemann.
Bonsoir François Claus.
Tout va bien.
Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, est un rappeur français originaire de la ville de Caen. Ses rues pavées et tous ses magasins qui ferment, comme il le chante, cet artiste normand est depuis ses débuts très fier de revendiquer ses origines.
Il le dit lui-même, adolescent plutôt timide, il préfère écouter que parler. D'ailleurs, Naïma, encore aujourd'hui, il est ce qu'on appelle un taiseux et n'accorde que très peu d'interviews.
C'est dans les années 90 qu'il prendra le nom de Orelsan, la contraction entre son diminutif Aurel et San, qui signifie monsieur dans la culture manga. Orelsan a la mélancolie chevillée à l'âme. Il n'est pas dans le rap revendicatif. Il fait un rap qu'on n'avait jamais entendu. Un rap intimiste dans lequel il délivre son mal-être.
Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Ta famille et la mienne sont la même.
Alors j'ai même si c'est canné, les premiers lui ont pardonné des errements sexistes du début, il reste Naïma que ses rimes scandaleuses, avec notamment la polémique de son titre « Sale pute » où il s'adressait de manière très véhémente à l'une de ses ex, lui colle à la peau.
Il a été un temps considéré comme l'enfant terrible du rap français, un jugé infréquentable au point de mettre sa carrière en danger. Et puis il s'est racheté, même s'il reste de loin, l'un des rappeurs les plus abrasifs de la scène française.
Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche.
Et puis, chez Orelsan, il y a ce côté touche-à-tout. Il est même allé réaliser un film en 2015.
Commencez loin, dans lequel il joue avec Grinch, son complice depuis toujours. Un film aux accents très autobiographiques, puisqu'on y voit le quotidien d'apprenti rappeur dans une ville de province.
Et laissez-moi représenter mes invités de ce soir. Guillaume Tranchant.
Gringe. Moi, c'est Gringe, moi.
Aurélien.
Aurel. Il s'appelle Aurel, en fait.
Pour moi, le rap, c'est easy, comme un exercice de maths. Même si t'es mort dans l'œuf, même si t'es mort sur l'île de Pâques.
Tout à cru qu'on allait percer dans le rap, mon gars, mais on n'a rien de spécial, mon pote, on n'a rien, ok?
Un jour, on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous.
Et finalement, Naïma, 2018 sera l'année de la réconciliation, du succès total. Car oui, Orelsan est un garçon surdoué. Et son dernier album, eh bien, réussit à réunir à la fois le public et enfin la critique.
J'arrive comme devine qui vient de sortir l'album de l'année. J'ai passé 2018 en vol plané. Je suis genre de loser qui fait que de gagner.
2018 a été l'année de tous les succès pour Orelsan, avec La fête est finie, son troisième opus, vendu quand même à 500 000 exemplaires, l'obtention de 3 victoires de la musique, dont celui d'artiste masculin. Il est définitivement consacré au firmament des artistes hexagonaux les plus populaires.
Et Orelsan est un animal scénique, et si vous ne l'avez pas vu sur scène, et si vous êtes dans la région de Colmar, c'est donc ce soir au Festival des Vins de Colmar pour un concert unique et qui va être très certainement parmi les festivals de l'été l'un des événements de cet été 2019. Merci Naïma Bencheban.
Merci François Clos.
Basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Et des mots du rap aux mots des livres, il n'y a qu'un générique à franchir.
Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre.
Europe 1.
Un jour d'été, un livre.
Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir François.
Comme tous les soirs, vous nous présentez un livre. Nous évoquons le lundi un grand classique de la littérature. Le mardi, un livre qui a marqué cette année littéraire. Et tous les mercredis, un livre audio, car c'est une tendance forte dans le monde de l'édition. Ce soir, Nicolas, vous avez choisi ce qu'on peut appeler un standard de la littérature.
Standard, c'est le mot, d'ailleurs, François, puisque c'est un bouquin très jazzy. L'écume des jours de Boris Vian, publié en 1947. Alors, si vous avez plus de 15 ans, c'est dommage, puisque c'est à ce moment-là qu'il fallait le lire ou l'écouter. Sinon, c'est pas grave, il n'est pas trop tard, simplement vous le lirez ou l'écouterez un petit peu différemment.
Sans oublier que l'écume des jours, c'est d'abord une histoire d'amour.
Absolument, entre Colin, le héros, et Chloé, il y a aussi Chic, un lecteur passionné de Jean-Saul Partre, et Nicolas, le cuisinier. Colin tombe amoureux donc de Chloé, mais elle est bientôt atteinte d'un étrange mal. Un nénuphar pousse dans son corps, et la seule chose qui puisse le faire reculer, ce nénuphar, ce sont les fleurs. C'est Arthur H. qui lit le livre, ça donne une version étonnante mais qui colle bien avec l'esprit de Vian, je trouve. Écoutez le début pour entendre ce que ça donne.
Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère, de verre, le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs.
Oui, c'est pas mal, effectivement, ça voit un peu éraillée, un peu lointaine et un peu espiègle aussi.
Oui, mais l'écume des jours, c'est d'abord un rêve. L'écriture, l'histoire, le livre est ponctué de pas de côté surréaliste. L'écume des jours, ça ne se raconte pas finalement, ça se vit. Écoutez ce passage. Colin présente à son ami Chic son pianoctel. Vous jouez du piano et vous fabriquez un cocktail en même temps en fonction de ce que vous jouez, donc de votre humeur du moment.
À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de Seltz, il faut un tri dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité. À la noire, l'unité. À la ronde, la quadruple unité.
c'est effectivement... totalement surréaliste, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'humour. C'est drôle
beaucoup,
à lire l'écume des jours. Hein,
c'est à la fois drôle et tragique, c'est les grands romans. Le rêve se transforme en cauchemar quand Chloé tombe malade. Pour la soigner, une seule solution, donc je vous l'ai dit, les fleurs. Mais plus il y a de fleurs, plus le nénuphar rapetisse. Alors Colin remplit la maison de fleurs, ça finit par marcher. Oui, mais les fleurs, ça coûte de l'argent et il faut les changer souvent. Et au bout d'un moment, Colin n'a plus de quoi acheter les fleurs. Bon, enfin, je laisse ceux qui ne l'ont pas lu découvrir le roman et découvrir cette galerie de personnages étonnante. Il y a Colin, donc, il y a Chloé, il y a Chic, Nicolas, Jean-Saul Partre et la souris aussi. La souris est importante. C'est un univers à part, beau, poétique, doux et mélancolique, et vous pouvez trouver la version d'Arthur H sur audible.fr.
Et puis vous pouvez relire également en poche, bien sûr, cette écume des jours signée Boris Vian. Merci Nicolas. Demain, quatrième jour de la semaine, on ira vers le noir. Noir, et on parlera d'un très grand roman noir. Je vous en dis pas plus. Venez demain à l'écoute.
Europe 1. Et dans un instant, François, notre héros du jour qui a marqué l'histoire du sport, et ce soir c'est un marathonien, Jean-Claude Perrin. ⅛ François Claus.
Alors Jean-Claude Perrin, c'est un marathonien de la radio.
Et
il va, après les années 30, après les années 40, nous raconter les années 50. Car heureux ou malheureux, ils ont à jamais marqué l'histoire du sport. C'est notre série de l'été signée Marc Fréjean et Jean-Claude Perrin.
Héros d'un jour.
Incroyable performance.
Jean-Claude Perrin.
Nous sommes le 1er décembre 1956 à Melbourne, en Australie, pour le marathon des Jeux Olympiques. Il est 15h heure locale. Le ciel est d'un bleu éclatant, mais la température 36 degrés, avec une chaleur torride, on pourrait presque dire tropicale. L'affaire s'annonce terrible pour les coureurs. Tous s'élancent, il est 15h10. La foule est considérable. Au 10e kilomètre, Mimoun observe la course et se contente de suivre. Alain vire en tête, mais il lui reste 21 kilomètres. Tout allait merveilleusement bien. Bonne attitude de course, très coordonnée. Au 32e kilomètre, en peu de temps, il sent que sa foulée est plus lourde. Sa tête lui fait mal. Il dira plus tard, comme si j'avais reçu un coup de matraque. Ma lucidité me quitte. Je confonds un pont qui est à 12 km de l'arrivée pour celui qui est proche du stade. Je me voyais vainqueur et là, il réalise son erreur.
Au 32e kilomètre, ah, j'ai senti d'abord quelque chose qui n'allait pas, la mécanique qui avait presque craqué. Vous voyez, je me disais, c'est pas possible. Et en effet, un peu plus loin, ça a été le coup de marteau, hein, le coup de masse, c'est pas possible. J'ai vu même des mirages, vous voyez. Il y a un pont en dessous qui était à 12 km et un autre qui était à 1 km. Eh bien, monsieur, j'ai pris celui qui était à 12 km pour celui qui était à 1 km. Je me voyais déjà champion olympique. Mais seulement, malheureusement, quand je suis passé et puis que j'ai vu une côte qui faisait 2 km, j'ai bien compris que ce n'était pas celui qui était à 1 km. Oh, alors là, oh, c'est fantastique. Eh bien, je m'insultais. Je criais en moi-même, je disais, salaud, je me disais, tu n'es pas arrivé jusque-là, c'est pas possible, avec tout le travail que tu as fait. Et je pensais à tout mon passé, à tout mon à ma famille. Je voyais ma femme devant moi, ma petite fille, ma mère. Je pensais à cette vieille femme qui est fantastique, hein, parce que vous savez, on ne pense pas souvent à la mère, et c'est pourtant la mère qui est le principal là-dedans. Hein.
Dans ce marathon olympique, il faut savoir lutter, mais son immense courage est là. Et le porte, c'est l'école de la volonté. Je suis reparti de plus belle, déclare-t-il. Et de nouveau, sa lucidité revient.
À 5 km de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe comme un déclic? C'est pareil. C'est la défaillance qui commence à partir d'un coup. Oh, c'est pas possible. Il nous semble être libéré, vous voyez. Libéré. Et puis je sentais comme ça. Et puis à 5 km, vous savez, à vol d'oiseau, c'était peut-être à 3 km. Il me semblait qu'il y avait un parfum. Vous savez, le parfum, j'assure que ça existe, le parfum de la victoire. Il me semblait que c'était quelque chose qui allait m'arriver fantastique. Une euphorie. Et puis à ce moment-là, il y avait les deux motards. Parce qu'à la fin, il y a les deux motards australiens de chaque côté. Et les motards qui m'encourageaient. Very good, Johnny. Alors, je me suis dit, s'ils me disent very good, c'est que c'est bon. Vas-y, criez. Et puis, voilà, j'allais plus vite qu'au départ, dites. J'ai fini les derniers 5 km plus vite que les premiers 5 km. C'est fantastique, c'était.
Le stade est là, à portée de main, immense. Il est 17h17.
Et c'est là où j'ai vu le fameux pont à 1 km. Oh, je dis, toi, mon gaillard, je vais te passer. Tac, je passe et je rentre dans le stade. Alors, ce stade, 120 000 personnes, une bombe atomique, une explosion. C'est fantastique. J'ai jamais vu une explosion pour toutes les courses que j'ai vues dedans. J'ai jamais vu une explosion comme ça. Parce que les gens attendent, vous voyez. C'est parce que les gens disaient que le 13, ils disaient pas les noms, vous voyez. Le 13, n'est-ce pas? Et puis alors, il y avait les milliers de Français qui étaient dans le coin qui croyaient pas. Qui disaient, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas possible. Jusqu'à que quand ils ont vu le maillot bleu, alors là, c'est fantastique.
Il franchit le tunnel. Il est seul, avec plusieurs minutes d'avance sur le suivant. Il lui reste un tour qu'il effectue à une vitesse record d'une minute 5 secondes. Le suivant est très très loin. Il se retourne. Par sécurité du reste, il le dira plus tard, pour ne pas avoir la surprise d'un concurrent qu'il n'aurait pas senti qui le double.
Je termine ce dernier tour. Savez-vous que le dernier tour de Melbourne, 400 mètres en 1 minute 6 secondes, ça a été le plus rapide de tous les temps. Donc, j'avais encore des ressources, vous voyez. Mais ce n'est que dans le stade que je me suis retourné, vous savez, comme ça. Parce que des fois, je me suis dit, on est battu dans le stade. Hein. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, ça m'a donné encore. Il me semblait que je ne touchais pas par terre. Vous voyez, tellement, je croyais que j'avais des ailes, vous voyez.
Les juges et les 100 000 spectateurs qui crient leur joie. C'est un bonheur suprême, avec une lumière intense. Mimoun passe fièrement devant les officiels qui ont levé leur drapeau blanc, annonçant son arrivée. Et puis là, il franchit la ligne d'arrivée, il gagne le marathon olympique.
j'ai pas voulu me coucher parce qu'on les couche à l'arrivée, vous savez. J'ai voulu attendre mon ami Zatopek, je croyais qu'il était deuxième. Je me suis dit peut-être il va se rattraper parce que comme je me suis pas retourné, je savais pas qui c'était. Malheureusement, c'était pas lui. Heureusement que c'était encore un ami à moi qui a fait deuxième. C'était un gars qui s'entraînait, c'est le Mihalik, le Yougoslave, hein, qui s'entraînait aussi souvent avec moi, qui c'était un grand champion aussi, qui a fait deuxième. Troisième, Karvonen, un Finlandais. Quatrième, un Japonais. Cinquième, un Coréen. Et sixième, mon ami Zatopek. J'ai attendu jusqu'à qu'il arrive pour que je lui fasse la collate, pour que je lui dise... Alors, j'ai vu, comme j'ai vu qu'il était devant moi, indifférent, j'ai dit, Émile, c'est moi qui suis champion olympique. Tu me félicites pas? Ah, monsieur. Il semblait se réveiller. Il s'est mis au garde à vous. Il a enlevé sa petite casquette et puis il m'a donné la collade. Eh bien, vous savez, ça, c'est la récompense de 3 Jeux olympiques.
Toute la France est heureuse de cette victoire, celle du vieux combattant. Le pays se prête d'une affection aussi tardive que soudaine pour cet homme. Sa gloire nationale n'a pas faibli depuis.
Extraordinaire témoignage, hein, issu des archives d'Europe 1, et très très beau récit. C'était en 56, il s'en souvient, mais il s'en souvenait encore, il le vit dans son récit. Ces légendes du sport qu'on raconte tous les soirs avec Jean-Claude Perrin et mise en onde par Marc Fréjean. Voilà, ainsi s'achève votre 18-20, votre grand journal du soir, votre grand journal de l'été. On se retrouve demain, Marlène.
À demain, François
Claus. Avec toutes ces belles rubriques vers le passé et pour commenter l'actualité du jour.